Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royons Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes et à tous dans Osons l'intime, la chronique où on parle d'intimité sur les ondes de Radio Royan Vercors et où on retrouve comme chaque semaine des membres du collectif Féminin Naissance Royan Vercors. On retrouve aujourd'hui Claire et Céline. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On parle d'un sujet effectivement intime aujourd'hui. Alors le terme est en anglais. On parle de yonistime. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en français,
Céline? En français, on parle de bain de vapeur vaginale ou de sauna vaginale. Alors, ce serait plus juste de parler de hammam vaginal. Donc, dans yonistime, on entend le mot yoni qui vient du sanskrit et qui désigne toutes les parties intimes d'une femme, en passant de la vulve, le vagin et puis toute la partie, les organes reproducteurs. Donc, ça inclut l'utérus et les ovaires, les trompes de Fallope. Quand on le traduit du sanskrit, ça veut dire source, temple sacré. Et le mot « steam » vient de l'anglais et veut dire « vapeur ». Et donc le principe, c'est de s'asseoir au-dessus d'une source, d'un bol d'eau chaude dans lequel sont infusées des plantes et que du coup, la vapeur monte dans le vagin.
Et alors déjà, peut-être juste techniquement, comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Parce qu'on ne peut pas s'asseoir directement sur le bol, j'imagine.
Non, on risquerait de se brûler. Là, je fais appel à votre sensibilité et à votre écoute et le respect de vos limites. Y en a qui mettent des bols dans la cuvette des WC. Après, il y a des chaises qui existent, mais on peut aussi utiliser une chaise ajourée ou se mettre à quatre pattes par-dessus. Ça, c'est plus technique, mais il faut quand même être dans une position où on peut se détendre et accueillir. Donc, l'idéal, c'est de... Moi, je me suis construit un tabouret dans lequel j'ai fait un trou au milieu et donc la vapeur peut passer. En fait, c'est une pratique qui existe depuis très, très longtemps. Je vais vous lire un texte pour un peu situer d'où ça nous vient et qui est pratiqué un peu partout dans le monde. Nous nous attarderons ici sur un cas précis d'études anthropologiques chez les Mayas des Hautes Terres pour établir un lien fort entre vaporisation et santé féminine. La yonistime est parfois considérée comme un mini témascal, c'est-à-dire comme une hutte de sudation, ici une hutte spécifique aux parties intimes des femmes. Dans la tradition maya et bien d'autres, le témascal a plusieurs objectifs. Un objectif d'hygiène quotidienne et un autre lié à des croyances et mythes donnant lieu à des véritables cérémonies. Entrer dans une hutte de sudation revient à rentrer dans le ventre de la terre-mère. Nous revenons directement dans son utérus pour y renaître et sortir, tel un nouveau-né à ce monde. D'ailleurs, les femmes mettaient généralement au monde leurs enfants dans ces huttes et enterraient le placenta sous la terre de ces sweet baths, donc bains de transpiration. Les bains de vapeur sont associés au maintien de la santé des femmes. Selon de nombreux Mayas, le bain de vapeur a été créé par les ancêtres pour protéger les femmes du froid pendant les périodes à haut risque, comme les menstruations, l'accouchement, le postpartum. Même si cette croyance est aujourd'hui parfois oubliée, il n'en reste pas moins que l'utilisation des bains de vapeur chez la femme en prévention et surtout en postpartum persiste chez les Mayas. Et donc, dans ce soin, on fait appel à la médecine de la chaleur et on fait aussi appel à la médecine de l'eau, des éléments et des plantes. Et donc, on peut faire un bain de vapeur sans plantes. Déjà, juste l'eau en elle-même et sa chaleur, elle peut déjà avoir une action très forte. Et son action, elle va être au niveau de créer de la circulation au niveau du petit bassin. Je vous lirai un extrait après. Mais avant ça, j'avais envie de vous parler un peu déjà de mon récit, de comment moi j'ai été introduite à cette pratique. J'ai découvert les yonistimes dans le cadre de ma formation de doula, donc d'accompagnante du féminin et des naissances, dans un accompagnement qui est non médical. Et donc j'ai reçu cette transmission et l'accent était principalement mis sur la yonistime comme soutien au postpartum. Moi, j'ai commencé à pratiquer dans un premier temps, la première fois. J'ai eu vraiment des phases, des vagues où j'ai pratiqué pour des intentions assez différentes. La première fois, j'avais vraiment besoin de retrouver un lien avec mon intime et de me réapproprier cette partie du corps un peu négligée ou même oubliée. Et je crois que même dans nos représentations corporelles, c'est un peu un no man's land où on se représente pas notre sexe. Et donc, en prenant ces temps, j'avais déjà toutes des perceptions qui revenaient, des ressentis, et je me ferais un temps de bien-être et d'alliance avec mon corps et mon intime. Par la suite, j'ai continué à pratiquer ça avec l'intention de venir soutenir. Mais j'avais des problèmes gynécologiques, j'avais des kystes aux ovaires et des fibromes. Et donc je venais chercher vraiment la médecine de faire circuler le sang pour venir éliminer les toxines, pour ramener du sang neuf, ramener des minéraux, de l'oxygène, et donc venir aider mon corps à transformer, à se régénérer. Donc ça, c'est un des bienfaits et c'est un peu au niveau physique le bénéfice principal de refaire circuler. Et puis, plus tard, je l'ai pratiqué en postpartum pour à la fois soutenir ma récupération physique de mon corps, aider mon utérus à se resserrer, éliminer mon utérus, à éliminer les résidus de la grossesse, aider mon utérus à retrouver de la tonicité, de la force et du coup des nutriments.
Est-ce que ça peut se pratiquer immédiatement en postpartum ou il vaut mieux attendre un petit temps après l'accouchement ?
Non, mais peut-être je vous parlerai. Mais en effet, on ne pratique pas immédiatement et il y a un peu. Je vous parlerai du cadre dans lequel on l'utilise.
On y reviendra plus tard.
Ouais. Et donc à ce moment-là, c'était aussi pour moi un temps de self-care, un temps, c'était pas uniquement physique, c'était aussi m'octroyer un temps seul, sans mon enfant, où je pouvais me relier à moi, à la femme que je suis et que je suis pas que mère. Et le self-care, ça vient de l'anglais, ça veut dire prendre soin de soi. Et c'est vraiment une pratique, c'est une disposition d'esprit. Il y a plein de manières de pratiquer le self-care. Enfin, aujourd'hui, on parle d'une pratique du self-care. Et donc, comment ça fait partie d'une hygiène de vie aussi, pour retrouver un équilibre et rester en santé, pas que physique, mais mentale aussi. Et enfin, là, ces derniers temps, je l'ai repratiqué. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que je retrouve cette pratique que j'avais un peu mis de côté ces derniers mois, années. Je l'ai pratiqué parce que je ressentais un besoin fort de réconfort avec l'hiver qui est là. Les années précédentes, j'avais un poêle, j'avais un habitat très cocon, chaud doudou. Je me prenais des bains super régulièrement. Et là, pas de bain, pas de poêle, pas de source de chaleur. Et je me suis dit, ben oui, mais en fait, je vais me faire un bain de vapeur vaginal. Ça vient aussi soutenir un processus. Moi, je suis en post-opératoire gynéco et je sens que ça aussi, ça vient soutenir cette récupération-là, pas tellement physique, mais émotionnelle, de prendre un temps émotionnel et subtil, je sais, d'aider mon corps à intégrer la mutation, le changement, le deuil. Et d'accueillir aussi les émotions de tristesse, des changements. Et donc pour moi, ça peut vraiment être un soutien dans des périodes de vie, de transition, à la fois physiquement et psychiquement. Peut-être ça peut sembler très loin et très étrange, mais quand on se relie à quelque chose d'assez concret, enfin moi j'ai un exemple là, du bien-être que j'ai pu ressentir à certains moments de ma vie en prenant juste une douche, une bonne douche, et comment Enfin là, je repense au jour 3 après l'opération où j'avais toujours pas pris de douche, où j'étais au fond du fond, où j'avais l'impression de sentir le bouc et j'avais tellement de vertige et j'avais l'impression que j'étais incapable de marcher jusqu'à la douche et juste de rester assis 5 minutes. Puis finalement, on m'a emmenée à la douche en chaise roulante, je suis restée un quart d'heure sur ma douche. Et après, mais j'ai l'impression d'être une jeune fille, quoi. Je suis sortie dans le couloir, j'ai marché jusqu'à mon lit, droite, et j'avais l'impression de revivre, de vraiment de vivre une renaissance. Donc si une douche peut avoir un pouvoir comme celui-là, ou même enfin, le bien-être qu'on peut avoir en allant au sauna ou au hammam, bah voilà, là, c'est un soin qui est assez simple, qu'on peut faire chez soi, qui ne demande pas vraiment beaucoup de matériel. Par contre, qui demande quand même une certaine... Enfin, ce n'est pas anodin. On vient quand même accompagner notre sphère intime. Donc, il y a quand même des recommandations. Ça, je vous en parlerai après. Mais avant ça, j'ai envie de poser la question. J'ai ma collègue Claire qui est là. Est-ce que tu as envie de nous partager, toi, ton témoignage de cette pratique?
Ouais, avec plaisir. Et bah, de toute façon, je crois que j'ai découverte avec toi. En tout cas, je l'ai pratiquée la première fois. Ça me rassurait, je pense, d'être accompagnée pour la première fois. Et en fait, en vivant ce bain de vapeur vaginale, je me suis rendu compte que c'était pas... Enfin, en tout cas, c'était peut-être plus complexe que je l'imaginais, même à mettre en place ou à vivre. Et finalement, moi, je l'utilise, comme tu dis, dans une démarche de soin de moi, où effectivement, moi, ça m'apporte beaucoup de réconfort, ça m'apporte beaucoup de bien-être. C'est très agréable d'avoir toute cette zone du petit bassin, du périnée réchauffée, où parfois, je mets des plantes aussi que j'aime bien, dont l'odeur, j'adore l'odeur. Et il y a aussi cette intention de prendre un temps pour moi, en fait, de prendre un temps où je vais venir... juste être dans le corps, un peu comme quand je vais au sauna ou au hammam, il y a quelque chose de... Les sensations sont tellement différentes de ce que je vis dans le quotidien et inédites et aussi très plaisantes, qu'il y a vraiment cette idée de m'offrir une parenthèse, une pause pour vraiment profiter. Parfois, je pose des intentions, effectivement, mais la plupart du temps, c'est juste « Ah tiens, je me ferais bien plaisir ce soir, je vais me faire un petit bain de vapeur vaginale. » Et ça, franchement, moi, à chaque fois, ça marche super bien, quoi. Vraiment, le côté chaleur... plus des plantes que j'aime beaucoup et qui me font du bien aussi, ne serait-ce qu'à juste les sentir ou la symbolique aussi des plantes. Enfin, c'est vrai que le choix peut être fait comme ça aussi, de ce qu'elles viennent symboliser ou leur vertu. C'est waouh, ouais, vraiment j'adore.
Ça a l'air très réconfortant, mais je me demande, du coup, ça se pratique quand même plutôt en hiver, au moment où on a besoin de chaleur?
Pas forcément.
Non,
à des périodes de vie où on a besoin de chaleur, peut-être. Okay. Et ça peut être un deuil, ça peut être un postpartum, ça peut être... ça peut être plein de choses, mais après, ça, c'est comment je m'écoute. C'est vrai que moi, c'est une question encore pour moi. Comment j'oriente plus vers la médecine du chaud ou du froid? Parce qu'il existe aussi plein de pratiques... comme les bains dérivatifs qui vont utiliser le froid au niveau du périnée en laissant couler de l'eau très froide au niveau du pli de laine, ou en mettant une serviette, c'est une serviette hygiénique spéciale, un peu comme les poches de glace qu'on met au congèle et puis on peut mettre dans sa culotte. Et donc, j'ai l'impression, moi, que la différence, elle est un peu culturelle et elle est sans doute aussi constitutionnelle, qu'il y a des types, des profils de personnes qui vont plus avoir besoin de chaleur et d'autres plus de chaud. Et sans doute aussi que ça va dépendre de la situation et de ce qu'on a envie de soutenir.
Mais de toute façon, si on a terriblement envie de s'offrir un bain de vapeur vaginale en plein été, ça va faire du bien, quoi. Et c'est vrai que ne serait-ce que moi, je le fais aussi quand justement il fait chaud, de pouvoir ouvrir l'entrejambe et recevoir par exemple la chaleur du soleil. Mais en fait, ça fait tellement du bien. Mais en fait, c'est aussi une zone, le périnée, qui reçoit pas tant la chaleur que ça, parce qu'il faut avoir les jambes écartées. Et il y a aussi tout cette cet aspect culturel en France où bah, souvent, nous, les femmes, on a les jambes resserrées, on croise les jambes. Donc, il y a aussi, ne serait-ce que aussi cette posture, je trouve, dans le bassin, c'est quand même pas anodin non plus.
Mais du coup, je dirais chaleur et détente parce que en général, on est quand même trop chaud au niveau du périnée. On porte des vêtements très serrés, on a les jambes croisées, on bouge pas. Donc, c'est comment amener de la mobilité, de la détente et une chaleur qui fait circuler. Là, je vais vous lire un petit texte qui, je trouve, résume assez bien les effets. Le vagin permet à la chaleur d'augmenter l'irrigation de la yoni par la dilatation des vaisseaux sanguins. La chaleur ne va pas seulement stagner dans le vagin, mais bel et bien traverser l'ensemble des tissus pour agir au niveau de l'utérus, des trompes, des ovaires. Moi, je rajouterais aussi de l'estomac. Plus il arrive de s'en charger en nutriments grâce à cette dilatation, plus les tissus sont nourris en profondeur. La chaleur permet de détendre certaines zones qui pourraient être tendues ou contractées, à la suite d'un trauma, par exemple. L'afflux sanguin va ensuite améliorer la circulation sanguine et l'élimination des toxines. Le trauma, conscient ou non, va alors physiquement se résorber. Et comme corps et esprit sont liés, la circulation physique des toxines entraîne aussi la circulation des émotions associées à ce trauma et des énergies de manière plus générale. Donc là, ça montre assez bien comment le physique et l'émotionnel sont liés et comment on est un tout. Et après, c'est pas forcément émotionnel à chaque fois et on va pas forcément toucher à des choses très profondes. Elle, dans son bouquin, de Aurore Lott, Yoni Steam, un rituel féminin ancestral. Elle dit vraiment que l'intention qui est posée au départ va assez fort diriger le vécu du soin. Et que si on n'est pas ouvert à accueillir des gros traumas, a priori, ça va pas se présenter. Mais si on sent qu'il y a des choses trop fortes qui montent et qu'on se sent en fragilité, faut aussi accepter d'arrêter et de se dire non, ça, j'ai besoin de l'aborder, enfin, d'être accompagné. Ces pratiques-là, elles étaient quand même transmises de femme à femme, elles étaient parfois pratiquées en groupe, il y avait une présence de sororité qui était beaucoup plus là qu'aujourd'hui dans nos cultures. Donc pour moi, c'est oui, on peut le faire seul, mais soyez suffisamment sensible pour écouter est-ce que vous avez envie d'être seul pour vivre ça. Et c'est vrai que moi, souvent, j'encourage pour une première fois, en tout cas, d'être accompagné et d'être initié. Et ça peut se faire de manière très pudique. Enfin, moi, quand je propose un accompagnement, je vais introduire aux soins, je vais installer la personne et puis je vais fermer la porte et je vais aller de l'autre côté de la porte, puis je vais accompagner par la voix, en fonction aussi de l'intention qui a été posée, de ce qu'on recherche. Je vais plus ou moins guidé, soit par une méditation, soit par des chants spontanés, soit juste par du silence, mais en régulièrement manifestant que je suis là et en checkant comment ça va. Et puis, il existe des contre-indications quand même à la Yoni Steam. Les contre-indications sont déjà les menstruations. Donc en période de menstruation, les vaisseaux sanguins sont ouverts et donc on risquerait de créer une hémorragie. On n'a pas envie de ça. Par contre, ça peut vraiment venir soutenir le cycle menstruel et donc ça peut être très soutenant quelques jours avant les menstruations, quand on a des symptômes prémenstruels forts, que les règles n'arrivent pas, qu'on sent qu'il y a un truc lourd qui tire. Ben on peut se faire 2-3 saunas vaginales 2-3 jours avant pour activer le mouvement. Et on peut aussi faire un sauna vaginal après les menstruations pour aider l'utérus à éliminer, à se retaper, à retrouver de la tonicité et à entrer dans le nouveau en forme. Alors les autres contre-indications, eh bien c'est la grossesse, la période d'ovulation si on a envie d'avoir un enfant, les cas d'infection aiguë, les plaies ouvertes et le stérilet hormonal. Le port d'un stérilet hormonal, parce que la chaleur pourrait déréguler les hormones qui sont envoyées. Et puis, il y a une liste de sensibilités. Et donc, une personne qui a tous les symptômes où il y a des excès de chaleur, là, c'est possible de le faire, mais avec moins de plantes, sur des durées moins longues, et en s'écoutant. Et si on voit que c'est... Enfin, donc je vais les citer. Donc ça peut être par exemple l'herpès, la fièvre, les sueurs nocturnes, des pertes odorantes. Donc ça, ce sont des situations où il y a un peu un excès de chaleur, où il y a des signes d'infection. Et une autre sensibilité, c'est quand on a un utérus fatigué, dans le cas d'un accouchement prématuré, de cycle menstruel court, de puberté très précoce, d'endométriose ou de fibromes multiples. Dans ce cas-là, la ionistime peut être un réel soutien, mais elle doit être appliquée de manière douce et progressive. Et puis après, on pourrait encore parler du lien aux plantes, comment on choisit les plantes. Il y a plein de recettes qui existent. Après, moi, l'invitation, souvent, c'est quand même de vous relier à la plante et à votre intuition. Et moi, j'ai une sélection de plantes qui sont pas nocives. Je peux citer la lavande, la camomille, le framboisier, l'ortie, l'achillée millefeuille. Ce sont toutes des plantes plutôt du féminin. La rose. Est-ce que tu en as d'autres?
Non, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et donc, les pelures de citron. Et donc, elles vont avoir des propriétés différentes. Il y en a qui vont être nettoyantes, d'autres rafraîchissantes, d'autres qui vont provoquer des saignements. Là, je n'ai pas du tout parlé du bénéfice en postpartum, mais vraiment, on peut avoir un protocole un peu comme une cure qu'on va faire à partir plus ou moins du 7e jour pendant 30 jours, une fois par jour. Mais ça, pareil, il faut s'écouter. La différence, c'est qu'en postpartum, on a des saignements, mais qu'on appelle des lochies, et à ce moment-là, les vaisseaux sont fermés, et donc là, il n'y a pas de risque d'hémorragie. La ionistime vient juste aider le corps à éliminer tous ses résidus et à retrouver sa tonicité et être régénéré, quoi.
Et pour les détails de cette cure dont tu parles, est-ce que tu aurais une référence peut-être à donner aux auditrices?
Contactez-moi et je le transmets dans le cadre d'un accompagnement, ouais.
D'accord.
Les ressources que je peux vous donner, c'est Steamy Chic, c'est Kelly Garza qui forme à l'utilisation des Ionistim. Elle est aux États-Unis, je crois. Et puis ce livre dont je vous ai parlé, Ionistim, un rituel féminin ancestral. Pour les ressources là, dans l'immédiat, moi j'ai été formée avec Quantique Mama.
On indiquera déjà tout ça sur le site internet de Radio Royan en mettant en ligne la chronique.
Voilà.
Et ben merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet donc sur la Ionistim, donc le bain de vapeur vaginal dont tu nous parlais aujourd'hui, Céline. Et donc je rappelle qu'on peut réécouter cette chronique donc soit sur le site internet de Radio Royan Vercors, radioroyan.fr, mais également sur les plateformes de podcast, dont Spotify par exemple. Et on vous retrouve très bientôt, Claire et Céline, pour des nouvelles chroniques Osons l'Intime. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Pour de prochaines chroniques Osons l'Intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.